France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand.
Et nous sommes le jeudi 10 octobre. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, l'offensive turque dans le nord de la Syrie avec déjà une quinzaine de morts et des milliers de personnes qui tentent de fuir les bombardements et les premiers combats au sol. Tollé de la communauté internationale, réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous serons en direct de Beyrouth dès le début du journal, après les autres titres.
La communauté juive en Allemagne demande une meilleure protection après l'attaque d'une synagogue. Hier, deux personnes ont été tuées. Quand l'Iran entr'ouvre la porte de ses stades aux femmes, la GPA qui s'invite de nouveau à l'Assemblée en conclusion des débats sur la loi de bioéthique, et puis gare ou centre commercial, l'aménagement de la gare du Nord à Paris en question.
Les invités d'Inter ce matin, 7h50, Léa.
À trois jours du vote pour le nouveau président des Républicains, comment va la droite? Fragilisée par ses psychodrames internes et siphonnée aux dernières européennes par Emmanuel Macron, comment peut-elle se relever? On pose la question à un ex-patron de l'UMP qui revient discrètement, mais sûrement, sur le devant de la scène. Jean-François Copé sera avec moi à 7h50.
À tout à l'heure. 8h20, le grand entretien de la matinale avec l'écrivain Sylvain Tesson pour le livre La Panthère des Neiges aux éditions Gallimard. Il sera accompagné de son photographe et ami Vincent Munier. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter.
Quelques heures seulement après le début des frappes aériennes, l'offensive terrestre de l'armée turque dans le nord de la Syrie a débuté un peu après 21h. Offensive que les forces kurdes disent avoir repoussée et qui crie à la trahison après avoir été en première ligne dans la lutte contre les djihadistes de l'État islamique. Bonjour Aurélien Colli.
Bonjour Agnès.
Vous êtes le correspondant de France Inter à Beyrouth. Alors que sait-on ce matin de la situation à la frontière entre la Syrie et la Turquie ?
Alors les bombardements turcs ont continué cette nuit. Ils avaient commencé dans les secteurs de Ras Al Ain et Al Tabia, d'où se sont retirés lundi des forces américaines, et ils se sont étendus ensuite à Kobané, où les Kurdes avaient résisté pendant 4 mois à Daesh fin 2014, ainsi qu'à Kamishlo, la grande ville du nord du Kurdistan syrien, proche de l'Irak. Des raids aériens, mais surtout des tirs d'artillerie, près de 200 frappes selon la Turquie, qui a lancé ensuite la phase terrestre de son offensive dans la soirée en ouvrant plusieurs brèches dans le mur qui sépare les deux pays. Hier soir, les forces kurdes parlaient de combats tout au long de cette frontière et ce matin, elles assurent avoir repoussé l'offensive turque dans la zone de Tal Abyad. Elles évoquent aussi le nombre de 25 civils blessés et 5 tués, 15 morts dont 8 civils, disent de leur côté les ONG.
Il avait été question, Aurélien, de préserver justement une partie du territoire où vivent de nombreux civils, baptisée zone de non-vol. Qu'en est-il exactement ?
Alors c'est difficile à dire, ce qui apparaît c'est que les raids aériens turcs se sont concentrés sur les deux secteurs frontaliers où l'offensive a démarré hier, je vous le disais, Tal Abyad et Ras Al Ain. Les autres bombardements seraient des tirs d'artillerie ou de mortiers selon les forces kurdes. Mardi, des hauts gradés américains avaient prévenu qu'ils ne laisseraient pas l'aviation turque utiliser l'espace aérien du nord-est syrien sous contrôle de Washington. C'est peut-être la raison de ces raids aériens turcs jusqu'à présent limités.
Merci Aurélien Colli en direct de Beyrouth. Ce matin pour France Inter, le président turc semble donc rester sourd pour l'instant aux condamnations multiples de la communauté internationale. Le Congrès américain a menacé la Turquie de sanctions infernales et d'anéantissement économique. La France, la Belgique, l'Allemagne, la Pologne et le Royaume-Uni ont demandé une réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU qui se tiendra aujourd'hui. Les Européens qui redoutent les conséquences de cette intervention, car si la situation se dégrade, les Kurdes pourraient avoir du mal à contenir les prisonniers de Daesh qu'ils détiennent actuellement dans des camps de fortune. David Rigoulet-Rose est le rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique et chercheur à l'Institut d'analyse stratégique.
L'enjeu, c'est un enjeu essentiellement sécuritaire pour les Européens, parce qu'effectivement, les Kurdes ont dit à plusieurs reprises que s'ils devaient faire face à une offensive de l'armée turque, ils ne seraient pas en mesure de pouvoir garantir la sécurisation des prisonniers qu'ils ont dans les camps. Parfois, il y a 70 000 prisonniers. C'est effectivement un enjeu sécuritaire, compte tenu du fait qu'il y a notamment 2 000 Européens qui sont dans ces camps. Ce n'est pas à proprement parler de monnaie d'échange, parce qu'ils considèrent qu'ils ont fait l'essentiel du travail. Ils ont payé le prix du sang. Quelques 11 000 Kurdes sont morts, justement, dans la lutte contre l'État islamique. Et donc, on peut comprendre qu'effectivement, ils demandent à leurs alliés occidentaux un minimum d'engagement vis-à-vis d'eux.
En fait, ces prisonniers de Daesh, ils font peur à qui ? Aux Européens, essentiellement, c'est tout ?
Oui, d'ailleurs, c'était un peu la dialectique de Donald Trump, en disant que finalement, le vrai problème, c'est pour les Européens, pas tellement pour les Américains. C'est une logique de Ponce-Pilate, d'une certaine manière, de sa part. Mais le problème reste entier pour les Européens qui sont aux premières loges, avec cette question du Moyen-Orient et de ses tourments.
Propos recueillis par Nathanaël Charbonnier. Les Kurdes de France ont eux manifesté hier soir à Paris pour demander le soutien d'Emmanuel Macron. Nous les entendrons dans le journal de 7h30. En Allemagne, la communauté juive demande une meilleure protection et une mobilisation contre l'extrême droite. Au lendemain de l'attentat de Halle, un homme lourdement armé a tenté sans succès de pénétrer dans une synagogue. Il a finalement tiré sur une passante, puis sur un homme dans un restaurant turc. Bilan 2 morts et 2 blessés graves. L'homme a été interpellé dans la soirée. Il avait publié sur Internet un manifeste antisémiste et raciste. Et la lueur d'espoir ce matin vient du côté de l'Iran. Pour la première fois depuis 40 ans, des femmes vont pouvoir aujourd'hui assister à un match de foot. Iran-Cambodge, comptant pour les qualifications pour la Coupe du Monde 2022. 3500 places ont ainsi été réservées aux supportrices. Fanny Lechevestrier.
3500 iraniennes qui ont pu acheter un billet pour cette rencontre de football masculin pour la première fois depuis la révolution islamiste. Parmi elles, Eddie, 32 ans.
Je suis contente. C'est la victoire de toute une partie de la société après un long combat pour gagner ce droit universel. Mais de notre côté, c'est triste aussi, car quelqu'un a dû mourir pour qu'on l'obtienne.
Avec la mort de celle que l'on a surnommée la fille bleue Sahar, arrêtée pour avoir tenté d'assister à un match déguisé en homme, coiffé d'une perruque bleue aux couleurs de son équipe et qui s'est immolée par le feu en septembre dernier. C'est son suicide qui a provoqué l'émoi de la communauté internationale et poussé la FIFA à faire pression sur l'Iran. Une victoire au goût amer pour Azadeh Khan, professeure franco-iranienne de sociologie à l'université Paris Diderot.
Pour ma part, c'est un tournant. Le problème, c'est qu'on leur a accordé que 3500 places dans un stade qui contient 100 000, alors que des dizaines de milliers de places qui sont attribuées aux hommes restent vides.
Et Amnesty International de dénoncer un coup publicitaire cynique avec des femmes parquées dans des portions de tribunes. La FIFA, qui supervisera le match, promet, elle, de maintenir la pression pour qu'à l'avenir, tous les stades soient ouverts aux iraniennes, sans aucune limitation.
Reportage de Fanny Lechevestrier.
Il est 7h07 en France. La fin du débat hier soir à l'Assemblée sur le projet de loi bioéthique.
Et les députés se sont offerts une ultime passe d'armes sur la GPA, pourtant pas à l'ordre du jour. Mais le gouvernement a dû faire appel à une procédure exceptionnelle pour revenir sur un amendement voté vendredi dernier et qui prévoyait la retranscription de plein droit à l'état civil des enfants nés d'une gestation pour autrui à l'étranger. Un chiffre fond rouge qu'il a donc fallu évacuer, Maxence Lambrecq, mais sans réussir à faire taire les opposants.
À minuit, le patron du groupe majoritaire doit monter au front. Gilles Legendre rappelle à l'ordre ses députés.
Dans notre promesse politique de 2017, c'était extrêmement clair, la GPA en France, jamais. Nous ne voulions absolument pas que ce doute puisse prospérer.
Elle n'a aucun doute, l'ancienne marcheuse Agnès Thil sent déjà le vent tourner.
Les ministres s'affichent publiquement pour la GPA éthique. Je pense à Nathalie Loiseau dès février, je pense à Mounir Mazoubi, à Gabriel Attal. Le lavage de cerveau sur les médias a commencé. Tout ça pour pouvoir dire dans 3 ans, la société est prête.
La droite est tout aussi virulente, alors la garde des Sceaux réplique.
Nous ne sommes pas hypocrites, nous proposons des solutions qui sont très claires. Interdiction de la GPA, mais bien entendu, établissement de la filiation dans l'intérêt de l'enfant.
Établissement de la filiation grâce à l'adoption que Nicole Belloubet souhaite faciliter, uniformiser. Et ça ne plaît pas au député LR Thibault Bazin.
Je déplore ce double discours. Vous proclamez l'interdiction de la GPA et en même temps, vous allez travailler pour faciliter les démarches post-GPA. Ce « en même temps » n'est pas éthique.
Non, c'est le bon juste milieu, rétorque la majorité, soulagée d'en avoir fini avec ce texte.
Et le vote solennel aura lieu mardi prochain. Le texte sera ensuite débattu au Sénat. La commission des lois du Sénat, de son côté, doit entendre tout à l'heure à 9h Christophe Castaner. Le ministre de l'Intérieur va devoir s'expliquer sur l'attaque meurtrière à la préfecture de police de Paris jeudi dernier. Les militants d'Extinction Rébellion continuent leur action au centre de Paris avec le blocage hier du McDo de la rue de Rivoli. Les clients ont été invités avec plus ou moins de succès à goûter de la nourriture saine. Manifestation également devant un magasin de prêt-à-porter CEA. Y aura-t-il une vaste zone commerciale dans les galeries de la future Gare du Nord à Paris? Décision en principe aujourd'hui de la Commission nationale d'aménagement après des mois d'un feuilleton à rebondissement. Enjeu Delphine Evenou, l'aménagement de la gare la plus fréquentée d'Europe, 700 000 voyageurs par jour et axe majeur pour l'organisation des Jeux Olympiques de 2024.
À sa présentation en juin 2018, Anne Hidalgo était enthousiaste. Elle parlait d'un réaménagement ambitieux. Ascenseurs partout, accès plus lisible, des espaces verts, salles de sport, équipements culturels, des bureaux et des commerces. trop de commerces. C'est bien là le problème. Fin juin, la commission départementale d'aménagement commercial retoque la copie de la SNCF et de la foncière privée Citrus. Un premier coup d'arrêt. Et début septembre, une vingtaine d'architectes de renom et d'historiens d'art prennent la plume, tribune dans Le Monde. Roland Castro, signataire, s'en expliquait sur France Inter.
Je pense que le commerce, quand on est obligé d'y aller parce qu'on va à la gare et qu'on fait tout un système commercial avant d'arriver à son train, c'est effrayant.
Le commerce au détriment des voyageurs, selon ses signataires, selon aussi la FNOT, principale association d'usagers, et la mairie de Paris a fini par ajouter sa voix aux contestataires malgré le soutien un an plus tôt. Nous ne serons pas aux côtés de la SNCF pour un projet commercial, tacle la ville il y a 10 jours. De quoi donner des sueurs froides aux promoteurs. La SNCF prévient, si c'est un non, la gare du Nord ne sera pas prête pour les Jeux Olympiques de 2024. C'est à la commission d'experts et d'élus réunis aujourd'hui de donner ou pas son feu vert.
Coup de typhon sur la Coupe du Monde de rugby au Japon. Les vents violents et les pluies torrentielles obligent les organisateurs à annuler les derniers matchs de poule et notamment un certain France-Angleterre qui devait se jouer samedi. Les Français et les Anglais sont déjà qualifiés pour les quarts de finale. Les Bleus devraient donc affronter le Pays de Galles dans 10 jours et les Anglais l'Australie.
À 7h11, la réouverture demain, Agnès, du Musée d'Art Moderne de Paris.
En travaux depuis un an et entièrement fermé depuis 3 mois, l'édifice a été rénové, notamment le Grand Hall qui a retrouvé son architecture originelle de 1937. Et les collections permanentes ont également été réorganisées, Bastien Munch.
Dans le parcours permanent, les derniers cartels ne sont pas encore posés. Fini les monographies sur des artistes, place à un parcours chronologique et thématique, du fauvisme au mouvement du fluxus, une réorganisation qui permet surtout de redécouvrir les œuvres. La preuve avec le directeur du musée d'art moderne, Fabrice Ergotte, devant l'hommage à Matisse de Zhao Vouki.
Dans la salle à côté, on a le portrait de Madame Quirico. Elle porte une sorte de grand tissu, rose verticale sur un fond vert, exactement comme le tableau de Zhao Vouki. Et ces concordances sont en fait des miracles qui se produisent dans l'accrochage, auquel on n'a pas du tout pensé avant. Et en commençant à déplacer les œuvres, on s'aperçoit que dans les passages, dans les portes qui ouvrent entre les salles, il y a des choses qui se passent, les tableaux dialoguent entre eux.
Pour sa réouverture, le musée d'art moderne met aussi à l'honneur le peintre parfois méconnu Hans Hartung dans une rétrospective. Les liens entre l'artiste et le musée sont très forts. Hartung y a souvent été exposé. Il est surtout un pionnier de l'art abstrait. Odile Burlureau est la commissaire de l'exposition.
C'est quelqu'un qui a ouvert une voie. Et cette voie, c'est celle d'un art abstrait qui n'est pas géométrique, mais qui est beaucoup plus lyrique et qui laisse passer plus de formes moins rigoureuses.
Avec cette exposition, le musée d'art moderne frappe donc fort pour sa réouverture. Hans Hartung n'avait pas fait l'objet d'une rétrospective en France depuis 50 ans.
Et pour l'occasion, le musée est gratuit tout le week-end. Ils, elles, seront deux aujourd'hui à décrocher le prix Nobel de littérature. L'Académie suédoise, qui est en plein scandale MeToo l'an dernier, avait renoncé à attribuer le prix, va donc se rattraper à la mi-journée et en décerner deux.
Merci Agnès Soubirande.